Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bon retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour le 10h midi. Alors on a un petit souci de vidéo sur le Facebook Live, mais ça ne vous empêche pas de réagir, je vous le dis, parce que l'émission est en direct, mais on a des petits soucis de connexion depuis ce matin. Mais vous pouvez nous appeler 0826 300 300, également tweeter, hein, on vous répondra, on relaiera votre opinion, puisque vous savez que sur Sud Radio, tout le monde a la parole. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, pour débattre, Dominique de Montvallon, bonjour, journaliste bonjour. Politique, Régis de Castelnau, vous êtes avocat, bonjour. Votre blog c'est Vue du droit, et également vous participez au magazine d'Elisabeth Lévy, Causeur. Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia, et bonjour. Nicolas bonjour, Moreau, Valérie. Bonjour, membre du collectif Antigone, bonjour à vous.
Bonjour.
Des tensions dans le couple franco-allemand, Angela Merkel, pardon, qui a clashé, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, notre président de la République, donc il est un petit peu isolé, on va y revenir. Les 80 km/h, faut-il laisser le choix au département? Le chômage au plus bas, bah, finalement, Emmanuel Macron a quand même réussi quelque chose. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300 et puis beaucoup d'autres petits sujets avec vous et avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Bah, Nicolas, on va commencer avec vous, un coup de cœur.
Oui, j'ai un coup de cœur léger, mais bien, qui est d'actualité, c'est pour Bilal Hassani.
Mmh. Voilà, on l'aura demain avec nous sur Sud Radio depuis Tel Aviv.
Et ouais, c'est quelqu'un qui est détesté par beaucoup. Bon, il est détesté parce que queer, il est détesté parce qu'arabe, il est détesté parce que homosexuel, il est détesté parce qu'il va chanter en Israël.
Il coche toutes les cases.
Il prend à peu près toutes les cases. Il se fait insulter par la terre entière. Et lui, il prend ça avec vraiment beaucoup de hauteur, beaucoup de noblesse.
C'est un garçon assez étonnant pour l'avoir rencontré, ouais. plutôt bien structuré, bien construit, avec une tête bien faite. Et là, c'est un torrent de boue, parce que sur scène,
enfin,
je vous laisse la parole. Bilal Hassani, c'est notre représentant à l'Eurovision. Vous ne le saviez pas?
Non, je pense que tout le monde ne le sait pas.
C'est vrai, c'est notre candidat à l'Eurovision, et là, il va chanter. Et on a presque envie de lui dire, en fait, que nous, en France, on s'en fout un peu de l'Eurovision.
C'est
quelque chose qu'on laisse bien volontiers à.
Tant qu'on perd, on s'en fout, en fait.
On
s'en fout parce qu'on s'en fout. C'est quelque chose qu'on laisse volontiers aux pays qui ne peuvent pas gagner la Coupe du Monde de foot. Ouais. Et lui, il vit ça bien, il vit son rêve. Donc, c'est tout ce qu'on a envie de lui dire, en fait. Qu'il ne se mette pas la pression, qu'il s'amuse, qu'il en profite.
C'est ce qu'il fait, je pense. Mais c'est vrai qu'il se prend un torrent d'insultes parce qu'il danse avec une femme. Il y a une jeune femme qui est obèse et une autre qui est sourde. Donc, toutes les insultes, il coche toutes les cases pour être détesté. Mais en tout cas, merci de ce.
Il prend ça avec beaucoup de hauteur. Je trouve ça très bien. Beaucoup de courage.
De ce coup de cœur. Régis.
Moi, vive les femmes.
ça m'étonne de vous.
Mais j'en étais sûr. Mais elles se trompent. Bon, sur le plan familial, on en parlait. Je suis entouré
de femmes.
Dans une ambiance très féminine. Non, je trouve que. Et c'est en ça que la ringardise du féminisme victimaire apparaît. L'autre jour, j'entendais Juliette Méadel et Caroline de Haas à propos d'Alain Delon. Je trouvais ça un petit peu ridicule. Alors même que je constate que dans tout un tas de domaines de la société, les femmes prennent de la place. L'autre jour, j'ai vu un match de foot où c'était arbitré par une femme. Je peux vous dire qu'il filait doux, les gars. Hein. C'était vraiment remarquable. Il y a la Coupe du Monde de foot féminine qui vient. Et moi, ce sport féminin et le foot... je trouve que cet apport est vraiment très sympa. Je regarde, je suis grand amateur, avec Philippe David, je regarde le foot féminin. Alors c'est un petit peu trop sérieux, il va falloir qu'elle se détende un peu, mais vraiment, je trouve que cette place, le cinéma, elles prennent la place qui doit être la leur, et ce qu'elles apportent est quelque chose de très positif.
Vous êtes un petit peu à contresens de la une de Valeurs Actuelles, effectivement, que j'ai vue, qui fait beaucoup réagir, une une... où on voit, peut-être c'est Alexandre qui vient de me la remontrer, cette image iconique de la Deuxième Guerre mondiale, où on voit, comment j'ai eu un trou de mémoire, cette femme avec le bras, vous savez, ces femmes qu'on a appelées à aller dans les usines pour travailler, pour remplacer les soldats, et les Valeurs Actuelles qui titrent la nouvelle terreur féministe.
Je ne partage pas, parce que je pense justement que ce côté-là est en train de reculer. Claire Nouvian, regardez ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu le début de l'émission où elle hurlait, je me suis dit, mais qui est cette personne? Entre moi-même, c'était un peu plus caractéristique ce que j'en pensais. Hein, elle a fait un montage qui était un montage tout à fait malhonnête. Hein, et moyennant quoi, je vais dire, elle s'est cassée la figure. Quoi. C'est-à-dire que la réalité, elle a dit que c'était parce qu'elle était une femme, que tout ça était sexiste. Bon. Je termine
donc,
juste un petit truc, parce qu'on a eu des discussions à propos de MeToo et de Balance ton porc, etc. Je pense, j'étais réticent à cause des mises en cause personnelles. de la oui, question de la justice. Mais MeToo, le changement du regard des hommes sur le corps des femmes, je trouve que ça progresse et que finalement le bilan de MeToo, il est contrasté et que j'avais peut-être tort à ce moment-là d'être trop opposé.
C'est bien.
Voilà.
Alors, Alexandre Malafaï, votre...
Juste un commentaire, là, vous serez réinvité avec des propos comme celui-là, ça, c'est sûr.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Non,
non, parce qu'on a eu, on a eu de fortes oppositions au moment de MeToo avec Régis et...
MeToo et Balance ton porc, c'est pas
oui,
pareil.
Oui.
Dénonciation de MeToo, c'était vraiment... Ouais. Voilà, il faut changer et je trouve que c'est juste.
Mais Balance ton porc, enfin bon, on va pas refaire le débat. Alexandre Malafaï.
Moi, c'est plutôt un coup de gueule, mais un coup de stupéfaction lié aux élections européennes à venir et à ce qui se passe, alors en particulier en Grande-Bretagne, où quand même nos amis anglais sont assez stupéfiants, puisqu'en fait, aujourd'hui, la liste qui est en tête, qui caracole en tête, c'est la liste tenue par M. Farage, Nigel Farage, dont on se souvient, puisque c'était le tenant en chef, le leader en chef du Brexit, qui a fait campagne avec M. Johnson en abreuvant l'opinion britannique de ce qu'on appelle des fake news, d'informations totalement erronées, de mensonges. Ils ont gagné le Brexit. À l'issue, ils ont reconnu que la plupart de ce qu'ils avaient annoncé, mis sur la table comme argument, était faux. Et il continue à être là, à faire politique, et c'est lui qui caracole en tête. Il y a quelque chose d'assez mystérieux dans la façon dont les électeurs réagissent, où en fait la raison disparaît complètement du champ politique. Mais c'est vrai, on peut transposer chez nous. Chez nous, aujourd'hui, on voit, par exemple, prenez, il y a 34 listes, c'est absolument hallucinant, comme si tout le monde pouvait se dire, tiens, on va aller fabriquer la loi en Europe. La tête de liste de la liste qui va peut-être gagner, Monsieur Bardella, il a 23 ans. Alors à 23 ans, on peut être champion de foot, de tennis, mais quand même compliqué d'être champion de politique. On peut peut-être avoir de bons arguments.
Mais franchement. Franchement, et indépendamment de tout parti politique, il se démerde plutôt
pardon,
pas mal
pardon,
par rapport
mais vous
à
jugez, hein. Pardonnez-moi, vous jugez sur quoi? Vous jugez sur des punchlines, vous jugez sur des gens qui sont très bien entraînés pour aller faire du débat à la radio, à la télé, qui passent leur temps c'est quoi son expérience de la vraie vie? On reproche à Emmanuel Macron d'être déconnecté.
Vous pouvez avoir des gens de 50, 60 ans qui sont totalement déconnectés de la vie.
La classe politique d'aujourd'hui, regardez la classe politique des années 70, 80. On va pas refaire le film. Mais aujourd'hui, on dit, tiens, Emmanuel Macron a manqué d'empathie, d'expérience, parce que jeunesse, etc. Et là, on va élire pour faire la loi européenne un type qui a 23 ans, qui connaît rien à rien. C'est fascinant. Moi, je mets simplement en garde, comme les électeurs britanniques, dit attention pour qui vous allez voter, parce qu'on va payer l'addition très cher à force de mettre des gens qui se contentent de la surface.
Très, mais c'est vrai qu'on se contente de la surface dans cette élection. On va peut-être y revenir tout à l'heure. On finit le tour de table. Alors je vous donnerai la parole après, Dominique, parce qu'on voudrait que tout le monde commente. Je sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. En tout cas, c'est un coup de stupéfaction pour le Rabbit de Jeff Koons qui s'est vendu 91,1 millions de dollars chez Christie's. Jeff Koons qui fait des sculptures, enfin qui sont parfois assez controversées, mais en tout cas ce lapin. 91 millions de dollars. Nicolas Moreau, vous êtes très féru d'art, beaucoup les musées.
Je suis féru d'art jusqu'à un certain point, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive dans le fauvisme ou les navis, ensuite le cubisme, je m'y perds totalement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai perdu le sens de l'art. Il y avait des choses qui étaient très belles, qui montraient soit la beauté de la nature, soit la beauté de quoi que ce soit. Et à un moment, il y a eu l'apparition de la photo qui a fait qu'on est rentré plus dans l'art moderne.
C'est un lapin gonflable, en fait. C'est
Mais j'ai l'impression que là, c'est devenu un petit peu n'importe quoi et qu'à côté, il y a peut-être des thèmes qui sont pas tout le temps abordés de niche fiscale, de besoin peut-être de blanchir d'argent, de mettre de grosses sommes aux frais assez rapidement. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on parle de ce point de vue-là plutôt que se concentrer sur un lapin qu'en vrai personne
donc
ne comprend.
Donc c'est une
gens font mine de comprendre parce que ça fait toujours fin de faire croire qu'on a compris les dessins de Picasso qui sont affreux ou les fleurs de Jeff Koons ou les trucs. On essaye de faire croire qu'on a compris la démarche, qu'on est intelligent, mais en vérité, personne ne comprend ça.
Ouais.
Tout le monde fait mine d'avoir compris
pas,
pour
si
briller.
Vous comprenez
et,
ou pas
et on finit par voir.
Il y a des gens qui comprennent
quoi,
ou alors c'est vrai que le marché de l'art, il y a plein de livres, il y a Jean-Claire qui a écrit des choses formidables, mais 91 millions de dollars, l'artiste le vivant le plus.
C'est l'ère des baudruches, c'est comme en politique, il n'y a que des baudruches.
Non, je ne crois pas que ce soit ça. Moi, j'ai le sentiment, j'ai pas mal lu ce que raconte Gilles Lipovetsky sur le luxe éternel, c'est qu'il y a toujours les deux fonctions. Il y a une fonction émotion, on ressent, etc. Le mécénat, ça existe, et ça a été un moteur important en matière d'art, et puis il y a l'ostentation. Et là, on a basculé complètement, vous avez raison, il y a des dimensions spéculatives, etc., mais on a basculé dans l'ostentation. Oui. C'est-à-dire que, comment s'appelle celui qui met des veaux dans des espèces de figées, là, McCarthy, ou autre, c'est qu'on montre. C'est comme la course entre les oligarques russes à celui qui aura le plus long bateau. Hein, c'est après, des trucs de cours d'école.
Après,
le net,
oui, l'oncle tient. Après Picasso, à l'époque, a été critiqué aussi.
Il a été reconnu de son vivant largement.
Oui, il a été reconnu de son vivant, mais le début n'a pas été, ça n'a pas été simple non plus.
Non, mais là, je pense que, y compris ce qu'avait fait Pinardo, un des deux, qui a mis en valeur un artiste algérien, qui a comme ça et hop il a acheté toutes ses œuvres hein, et ensuite la cote est montée parce que c'est lui qui l'avait faite la cote qu'il a fait lancer et il a tout revendu et il a fait une plus-value extraordinaire. Il y a ça aussi les mécanismes liés à l'existence d'une oligarchie parce que qui a les moyens de mettre 100 millions d'euros ou de dollars dans un lapin gonflable.
Dominique, ça vous inspire 91 millions de dollars, ça vous inspire quoi?
Ça ne me consterne même pas.
Ça vous consterne même pas. Bah écoutez, c'est vous traitez
ça
par...
je crois que c'est la meilleure réaction.
Pour être clair et un peu familier, je suis désolé, je m'en fous.
Vous en foutez? C'est quand même
complètement.
Non, mais c'est
pour le coup, ils sont hors sol. Bon, c'est le qui reste sur leur planète, ceux qui font ça.
Alors, encore un petit mot pour un coup de cœur pour Imamet, qui est une jeune femme sur Internet qui est courageuse, qui se fait malmener et qui a dénoncé la tenue vendredi à Saint-Denis d'un dîner caritatif au profit du centre de formation des oulémas avec la présence d'un imam conférencier de l'UOIF qui est assez... Enfin, vous avez suivi ça aussi, Nicolas Moreau.
Ouais,
bref,
c'était...
grâce à son tweet et grâce à elle, finalement, ce dîner ne se tiendra pas. Ouais. Que
non,
j'ai compris.
Et l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a derrière une association qui, étrangement, est reconnue d'utilité publique, qui collecte des dons, on ne sait pas trop comment.
Et défiscalisée. Donc,
qui permet de défiscaliser, et qui est proche de cet ouléma, donc qui est un ouléma qui est notamment cité dans l'affaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, vous vous souvenez?
Qui déroule un exposé sur la base de la Sunna pour expliquer que le djihad doit être pensé, réfléchi, qu'il ne faut pas y aller au casse-pipe, mais plutôt s'implanter, grossir les rangs avant d'attaquer.
Il fait la totale, enfin, il est antisémite.
Donc voilà, ce type-là devait être reçu, devait y avoir, avec un appel aux dons, remboursé, comme tous les dons, déductibles des impôts.
C'est un Français, c'est un citoyen français, cet ouléma?
Non, c'est un Mauritanien.
Mauritanien, voilà.
C'est vrai que c'est un coup de cœur pour elle, dans le sens où elle a fait toute l'enquête tout seul.
Le trésorier qui récoltait les dons doit être français.
Oui, le trésorier l'organisation.
Mais oui, elle a été, justement, elle s'est mise un peu toute seule dans cette enquête-là. Elle a été creusée toute seule, elle y a passé plusieurs journées à creuser, à aller chercher. Grâce à ça, ça remonte. Grâce à ça, le dîner a annulé. Et grâce à ça, maintenant, il y a des contacts pris avec les autorités. Donc, on espère maintenant que ça va aller beaucoup plus loin sur les reconnaissances d'utilité publique, sur les dons, sur les financements, etc. du terrorisme. Mais c'est bravo.
Allez, on se retrouve dans un instant avec le coup de gueule ou pas, je ne sais pas ce que vous allez dire, Dominique, à propos du procès Balkany. On va y revenir et je pense que c'est un vrai sujet de débat. On attend vos réactions. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct, 0826 300 300. On a un petit bug sur le Facebook Live, donc vous avez Twitter, vous avez le téléphone si vous voulez réagir à nos débats. Et Dominique de Montvallon, votre coup de gueule concerne le procès Balkany.
Oui, concerne le cas Balkany. Alors, je voudrais dire que par rapport aux sujets qui ont été abordés par mes camarades ici présents, on descend de 3 ou 4, mais je l'assume, hein, de 3 ou 4 crans quand même en évoquant le procès Balkany, mais en même temps, il est partout présent. Alors, je veux dire deux, trois choses. La première, c'est que je pense, une fois de plus, que les journalistes n'ont pas vocation à être des justiciers. Et je suis quand même frappé de la façon dont ce procès est envisagé, alors qu'il vient juste de démarrer, et est envisagé et traité par un certain nombre de confrères qui donc s'opposent en procureur, ont déjà tout tranché à l'avance. La deuxième chose, c'est que très clairement, cette affaire aurait dû être jugée. Je retire le mot jugée. Aurait dû être éclaircie, hein, cette affaire ou ces affaires concernant Patrick, depuis très longtemps. Faut-il dire qu'il a été protégé? Je suis tenté de le répondre. En tout cas, il a joué avec ses avocats de telle façon qu'il aura fallu attendre 2019 pour qu'il soit amené à s'expliquer, éventuellement d'ailleurs à rendre des comptes. Et puis la troisième et dernière chose, c'est que on le voit dans ce, à mon avis, dans ce début de procès, cet homme est. On voit à la fois pourquoi il a pu séduire certains et notamment certains de ses électeurs à Levallois. On voit aussi comment il est le Balkany et le plus grand adversaire de Balkany, parce que sa façon
chaque jour depuis le début du procès.
Sa façon de transformer ça. De transformer le début du procès dans les couloirs et face aux caméras, naturellement, en une espèce de show personnel, si je suis modéré, je dirais totalement contre-productif, et dans lequel il balance plein de choses qu'il expliquait probablement en privé devant ses amis ces 20 dernières années, mais qui sont assez consternantes. Mmh. Et donc j'imagine que son avocat très
Maître
célèbre,
Dupond-Moretti.
Maître Dupond-Moretti doit considérer que sa défense sera encore plus délicate qu'elle n'était. Mais j'insiste sur le point de départ, ce serait bien que un certain nombre, pas tout le monde, hein, je ne fais pas la morale, mais un certain nombre de confrères évitent de se ruer sur ce cas avec cet empressement. Enfin, à défaut de pouvoir remettre la gauche sur ses pieds.
Ça, vous voyez un procès politique.
Un traitement de facilité. Par rapport à un procès qui n'a que trop
attendu. Vous avez entendu ce qui s'est passé hier pendant la... Écoutez. Vous entendez ? C'est la musique des tontons flingueurs. Ah. Et c'est le portable, la sonnerie de portable de Patrick Belkiani qui a retenti. Alors. Dans le tribunal, donc lui-même en fait un show, si d'une certaine manière.
J'ai dit, alors, chose rare, je suis d'accord avec
Dominique de Montvalon.
Avec un petit bémol, la durée de la procédure...
Ça a pu nous arriver, peut-être presque
Régis,
par erreur.
Régis de Castelnau.
Hein. Oui.
Il y en a des moments d'absence.
Faiblesse.
Creusez un peu, vous allez...
Non, mais je pense... Et puis, je trouve... Alors, le compliment, ça fait bizarre. Je trouve ça sain, cette réaction, parce que bon, moi, mon lieu d'énonciation, c'est le prétoire. Hein. Je suis avocat.
Je sais qui vous êtes, maître.
Et donc, j'ai souvent beaucoup protesté contre le cirque médiatico-judiciaire. Juste un petit bémol concernant la durée de la procédure. Première observation, ça travaille tranquille hein, au pôle financier. Hein. C'est pas accablé. Hein. Passer un petit coup de fil à 17h ou à 16h30, il n'y a plus personne.
Parce qu'alors, nous sommes d'accord.
Ils sont tranquilles.
Demandez à M. Fillon, il n'a peut-être pas le même avis.
Une fois
que le truc d'urgence a été fait, après, tranquille. Ça fait 2 ans, ça... Bon. Deuxièmement, c'était assez complexe aussi, parce qu'il y avait des commissions rogatoires internationales, il y avait des choses qu'il fallait faire revenir, etc. Ça a pris du temps. C'est pas tellement, je pense pas, d'après ce que je sais de ce dossier, parce que vous savez, on est curieux, on va voir. Hein. Bon, je pense pas que ce soit des excès de défense formelle. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ce qui se passe là est très négatif. C'est un cirque. Il y a effectivement, on va se passer les nerfs sur cet homme, hein, qui n'est pas ma tasse de thé, parce que c'est une très vieille histoire.
Pas la mienne non plus.
Hein. Moi, j'ai connu la période avant sa défaite contre Olivier de Chazeau, hein, qui s'est révélé un mauvais maire et qui a été écrasé le coup suivant, parce qu'en fait, il a été battu aux élections. Ouais. C'est pas les juges qui l'ont débarqué, ce sont les électeurs dans un premier temps, hein, et je crois que c'est un bon maire. La preuve, hein, il fait des scores de maréchal. Et donc, la façon dont ça se passe là, les rigolades, les réseaux, le machin, je veux dire, c'est pas terrible. Quoi, comme l'image que ça donne du cirque médiatico-judiciaire,
mais lui met du sien aussi. Quand il dit on a commencé la politique riche, on l'a fini pauvre.
Mais évidemment,
Renaud Pilat, qui est journaliste sur LCI, dit dur à battre pour le prix du
mot politique.
J'ai retweeté
ça parce que je trouvais ça excellent.
Quand il dit il n'y a pas plus de magots que d'épinards en branche, c'est lui.
Moi, j'avais une question en fait plutôt. C'était, est-ce que c'est pas justement un moyen de faire une sorte de contre-cirque médiatique, puisque médiatiquement, il a déjà été pré-lynché, en fait. Et ça, c'est malheureusement très courant en France, c'est-à-dire que médiatiquement, il est lynché, condamné, avant même d'avoir été jugé. Et est-ce que là, il essaye pas de faire justement un cirque médiatique pour essayer de contrebalancer cet effet où il a déjà contre lui tous les médias et ensuite il risque d'avoir contre lui les juges.
Oui, mais alors, il y a quelqu'un qui a la police de l'audience, c'est la justice qui doit juger. Hein, je veux dire, il y a façon de faire, quoi. C'est-à-dire se laisser, là, cette fois-ci, ça c'est pas à chaque fois, mais cette fois-ci, se laisser transformer son prétoire en scène de chansonnier. Non, ça c'est, je pense... Alors, je connais pas le président, je crois qu'il est assez ferme et qu'il est plutôt digne dans sa présidence, mais c'est un ensemble. Quoi. C'est là, tout le monde rigole, c'est au détriment du respect de la justice.
Ça permet pas de mettre la pression sur les juges, justement, en quelque sorte, par l'intermédiaire médiatique. C'est...
Oui. Ça reste à démontrer.
Oui. Ça reste à démontrer. Oui,
Alexandre. Ça existe aussi.
Un commentaire pour simplement apporter un bémol sur ce que vous disiez. La procédure, c'est vrai, a duré longtemps. Elle peut ne pas durer aussi longtemps, tout dépend par qui on est défendu. On sait bien que la défense, quand elle fait bien son travail, peut utiliser toutes les voies possibles et ce qu'on appelle les recours, les mesures dilatoires sont pas non plus totalement exemptes de ce type de démarche. Mmh. Mais cela dit, il faut aller au bout des dossiers. Moi, je trouve que ce type est assez fascinant quand même. Hein, parce qu'il est blacklisté par l'opinion et totalement plébiscité par ses électeurs. Ouais. Je suis sûr qu'il se représente demain, en tout cas avant le verdict, il sera certainement réélu. C'est assez fascinant.
Sa ville est superbe.
Non, mais absolument. Non, mais c'est fascinant. Mais c'est comme raconte la même histoire. Quand je parlais tout à l'heure de Nigel Farage, qui aujourd'hui caracole en tête, alors que c'est un menteur, Balkany, qui a priori, je dis bien a priori, a peut-être pas été. Non, mais je ne condamne pas. D'autant plus que moi, j'attends avec un grand intérêt le verdict. Parce que là encore, il peut y avoir une énorme machine qui s'est mise en place pour toutes sortes de raisons. Et puis peut-être à un moment donné, un verdict judiciaire qui sera peut-être plus. Je ne suis pas sûr, j'en sais rien, mais on n'a pas le dossier. Donc il faut vraiment attendre.
On continue. 0826 300 300, et on va parler des tensions entre Emmanuel Merkel et Emmanuel Merkel, c'est intéressant. Emmanuel Macron et Angela Merkel, croisons-les.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, les sujets qui font l'actualité. Bien, il y a cette déclaration d'Emmanuel Macron. Emmanuel Merkel, d'Angela Merkel ce matin au quotidien allemand. Alors je vais me lancer, il y en a un qui parle bien allemand, Süddeutsche Zeitung, qui égratigne quand même le couple franco-allemand. Elle met en lumière les différences de mentalité entre elle et le président français, des différences dans la compréhension des rôles. On a Catherine qui voulait réagir sur le sujet au 0826. 300 300. On vous écoute, Catherine. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Oui, bonjour. Ben, écoutez, moi, ce que je trouve surprenant, c'est d'avoir entendu Madame Loiseau dire l'autre jour que Emmanuel Macron était le leadership de l'Europe. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que Monsieur Macron est plutôt seul, complètement isolé. Et ce qui me désarme, c'est qu'il se met tout le monde à dos. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Il se met tout le monde à dos et qu'en gros, on ne nous dit pas la vérité, c'est ça?
Non, c'est très bien.
Nicolas Moreau.
Non, je suis tout à fait d'accord avec madame, dans le sens où sur le coup de Merkel, c'est assez difficile de distinguer ce qui est lié à la personnalité de Macron et ce qui est lié aux élections européennes, puisqu'il y a des enjeux européens. Le parti de Merkel et le parti de Macron ne vont pas siéger au même endroit dans l'Union, donc il y a un petit peu de politique. Mais je pense que vraiment, la personnalité d'Emmanuel Macron l'a beaucoup desservi au niveau international, puisqu'il s'est mis à dos à peu près tout le monde. Il s'est mis à dos Poutine, évidemment. Il s'est mis l'Arabie Saoudite avec, il s'est mis à dos.
Mais comment
la
on peut comprendre.
Et Trump aussi, en faisant le malin.
On peut comprendre cette déclaration d'Angela Merkel à 10 jours des élections? C'est très politique, cette déclaration. Elle sait qu'elle va le mettre dans l'embarras.
D'abord, elle s'en va bientôt. Ouais. Elle a un successeur qui a mis les points. Une successeuse ou successrice, je ne sais pas comment on dit, hein, parce que je n'ai pas été jusqu'à l'écriture inclusive ma conversion. c'est ce qui est il faut l'entendre, le successeur, ça y va quand même, le siège à l'ONU, etc. Et tout, c'est assez fort. Bon, moi je pense qu'il y a un désaccord politique et un problème de méthode. Un désaccord politique, c'est-à-dire que l'Allemagne n'est intéressée par l'Europe que dès lors que ça sert ses intérêts de Grande Allemagne, parce que ça s'est accusé depuis la réunification. Et je pense que Emmanuel Macron voudrait que l'Europe soit autre chose. Le problème de la méthode, c'est que se mettre dans le sillage et faire du suivisme, en essayant d'imaginer que les Allemands vont mettre de l'eau dans leur vin, vont accepter des choses. Donc il a proposé, mais à chaque fois il se prend des rebuffades, parce que les Allemands et Emmanuel Macron n'ont pas la même conception de l'Europe, puis c'est tout.
Alors le président français, lui, il assume une confrontation féconde. Je mets des guillemets.
Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il propose, mais il propose sans se concerter. C'est-à-dire que le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle est arrivée à un tel niveau de d'élitement politique, et on voit bien ce qui est en train de se passer avec les élections européennes, c'est que ça ne sert à rien de faire des grands discours de la Sorbonne, ça ne sert à rien de publier des tribunes dans toute la presse européenne, seul, en expliquant ce qu'il faut faire, et en ayant pris en préalable aucune assurance qu'on sera suivi dans la mise en œuvre. Quand vous publiez une tribune dans 28 pays d'Europe, vous insultez 27 chefs d'État et de gouvernement. Voilà. Et c'est totalement contre-productif. Et je pense que le message que lui passe la chancelière, c'est un message... garçon, moi je vais m'en aller. Maintenant, il faut que tu changes parce que on va pas arriver à faire avancer la construction européenne avec ce type de fonctionnement. Il vaudrait mieux s'atteler à des petits sujets, des petits pas qu'on peut accomplir sur lesquels on arrive à trouver des coalitions avec un certain nombre de pays, avec un certain nombre de chefs d'État de gouvernement pour faire avancer plutôt que de faire des grandes déclarations. Parler d'une armée européenne, c'est absurde. C'est absurde. Il n'y aura jamais d'armée européenne avant 20 ou 30 ans. Il faut être très clair. Et peut-être plus. Quand on parle de budget de la zone euro, pour les Allemands, c'est une provocation. Ça ne veut rien dire. En plus, techniquement, ça ne veut rien dire. On n'est pas capable de l'écrire et de le construire. Donc, les Allemands prennent tout ça en disant, mais attendez, de quoi parlons-nous, quoi? Et en plus, Emmanuel Macron fait l'erreur de considérer la chancelière comme son alter ego, je dirais au sens institutionnel. Or, elle ne l'est pas. La chancelière, quand il fait son grand discours de la Sorbonne en septembre 2017 pour parler de refondation de l'Europe, il le fait 4 jours avant les élections en Allemagne. Donc évidemment, la chancelière ne peut pas répondre. De façon à supposer qu'elle puisse répondre, il faut qu'elle parle à tout le monde autour d'elle. Parce qu'elle n'a pas la liberté de parole. C'est le mouvement de coalition avec un système politique qui est très différent, qui est fédéral. Et donc, on passe son temps avec une asynchronisation des comportements qui font que c'est totalement stérilisant. Alors, et maintenant, elle le dit, attendez. Alors, par contre, c'est quand même très préoccupant qu'elle le fasse à 10 jours de l'élection. Quoi. Qu'elle les fasse juste après. C'est vraiment un très sale coup. Ouais. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose en coulisses qui fait qu'à un moment donné, elle envoie un ballon en disant maintenant ça va? Je ne sais pas.
Oui, Dominique.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandre Manafaille, donc je ne le paraphraserai pas. Je voudrais dire quelque chose, c'est que c'est quand même au-delà du cas Macron qui vient d'être évoqué. Je partage, je le répète, ce qui a été dit. Au-delà du cas Macron, ça en dit long sur ce qui se passe en Allemagne. Et quand même, historiquement, c'est quand même quelque chose de très important. C'est-à-dire, on n'est pas en état de sécession, on n'est pas en état de divorce entre Français et Allemands, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'une chancelière qui est devenue minoritaire dans son pays, qui est discutée dans son propre pays, qui voit que les vents dans son propre pays, comme dans le reste de l'Europe, sont à droite toutes, c'est-à-dire celle qui va lui succéder vraisemblablement, et quelqu'un qui se situe, alors c'est un peu simpliste de dire ça comme ça, mais enfin on se comprend, si j'ose dire, beaucoup plus à droite qu'elle, etc. Elle est obligée d'en tenir compte. Son objectif, c'est, sur l'histoire des migrants, elle n'a pas tenu compte de l'état d'esprit de ses concitoyens. Elle a agi à la façon de Macron, toute seule. Voilà. Et elle voit ce que ça a donné dans son propre pays, et même au-delà de son propre pays. Là, elle est obligée, structurellement, politiquement, etc., de tenir compte. C'est comme ça que j'interprète aussi les choses de façon complémentaire. Mais on a assez brocardé, notamment Mélenchon, le fait qu'on était à la remorque des Allemands. Il va devoir changer de logiciel et dire les choses un peu autrement. Mais si maintenant la zizanie, on n'en est pas là, mais quand même, si la zizanie s'emparait de ce qu'on a appelé le couple franco-allemand, ce serait bien au-delà de Macron et bien quand il aura quitté le pouvoir, à quelques moments que ce soit, ce serait quelque chose d'extrêmement grave pour les Français. Donc la reconstruction sur d'autres bases d'un dialogue fécond ou d'un dialogue positif, dirons-nous, avec les Allemands devient maintenant pour tous, sans exception, une priorité. C'est grave, c'est un signal d'alarme. Voilà, même si elle s'intéresse d'abord à ce qui se passe sur sa scène intérieure allemande.
On a Pierre en ligne avec nous qui souhaitait réagir au 0826 300 300, et le live refonctionne sur Facebook si vous nous écoutez. Vous pouvez réagir. On vous écoute, Pierre, bonjour.
Bonjour. Moi, je suis extrêmement heureux que Madame Merkel s'oppose à notre président pour une simple et bonne raison, c'est que Monsieur Macron est un excellent orateur, on ne peut pas le nier, mais par contre, c'est un très mauvais homme politique. Et lorsqu'il parle, par exemple, de créer une armée européenne, pour créer une armée européenne, il faut d'abord qu'il y ait un président européen, il faut qu'il y ait un gouvernement européen. On ne crée pas une armée qui va être gouvernée par 27 présidents.
Ouais.
Donc je crois que déjà, à ce niveau, il est hors circuit. Et quant au reste, je crois qu'il est à la croisée des chemins. S'il finit deuxième à cette élection européenne, il est évident qu'il n'a plus aucun avenir, ni français, ni au niveau de la France en 2022, et ni au niveau européen, puisque déjà, lui, dans sa tête, il aimerait être un jour président européen. Il le dit depuis des années. Si vous écoutez tous ses discours, on voit que c'est toujours ce qu'il imprime. Et ce qui le fait avancer, d'autant plus qu'il est encore jeune, et que derrière, il aimerait absolument un jour devenir président européen. Et malheureusement, il n'a pas les capacités politiques, à mon sens, et même, pour moi, il n'est pas à la hauteur pour être un jour un président, parce qu'il n'est pas suffisamment diplomate.
Mmh. Mais, oui.
Concernant, je reviens sur cette divergence. Dominique dit qu'il faut relancer le couple franco-allemand. Le problème, c'est qu'il n'existe pas, si tant est qu'il n'ait jamais existé. Je pense que c'est un leurre. On s'imagine qu'on va pouvoir contrebalancer la puissance allemande, puissance industrielle, puissance politique, et surtout depuis la réunification, l'Allemagne, elle est dans sa trajectoire classique. C'est ce qui l'intéresse, c'est la Mitteleuropa. Je pense que l'Europe des 27 ne l'intéresse pas tellement. Hein. C'est la zone euro qui l'intéresse aussi, donc, puisque c'est le marque, l'euro et c'est le marque. Donc, je pense qu'il y a une vraie divergence concernant l'avenir de l'Europe. Je ne dis pas de l'UE, hein, je parle bien de l'Europe, et que là, je veux dire, les choses s'accusent, et que le jour où l'Allemagne coupera les amarres est peut-être pas si loin. Hein.
Ouais.
Non, ouais. Ça, je crois pas.
Le timing choisi par Angela Merkel, politiquement, il est pas neutre non plus.
Il est très perturbant. En tout cas, elle ne fait pas un cadeau à Emmanuel Macron. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas non plus avoir une vision, on va dire, totalement négative à l'égard de l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas un ennemi de l'Europe, quoi. Bien sûr, chaque pays gère en fonction de ses intérêts.
Surtout un ennemi de la France.
Non, mais c'est
quand même plutôt l'inverse, parce qu'ils ont pas mal de soutien parmi les autres pays dont on parle jamais. Mais l'Allemagne n'est pas du tout toute seule.
Je crois qu'ils ont quand même. Ils ont un vrai projet européen. Ils ont une vraie vision européenne. Ils ont l'avantage d'être plus forts que les autres parce qu'ils sont plus gros, donc naturellement, ils en profitent. Mais pour autant, il y a une dynamique. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver une manière de discuter, de dialoguer avec les Allemands. Quand on va les voir en leur disant « on veut plus d'Europe », aujourd'hui, les Allemands, ils disent « non, on ne veut pas plus d'Europe ». D'ailleurs, ça ne veut rien dire. En revanche, améliorer la gouvernance de l'Union européenne, être capable de faire avancer des projets en commun sur toute une série de sujets qui sont des sujets ouverts, il y a des quantités. Alors évidemment, quand on parle de questions de défense, ça devient très vite crispant. Parce que là encore, il faut se refaire un peu d'histoire. Les Allemands ont mis dans leur constitution le fait que globalement, ils ne voulaient pas participer à des interventions armées. Donc quand on en parle d'armée européenne, c'est un non-sujet. C'est mettre du temps et de l'énergie sur des débats qui, de toute façon, n'aboutiront à rien. Mais il y a quantité de sujets sur lesquels on peut avancer, sur des aspects industriels, sur des aspects technologiques, sur la régulation du net. Ils sont prêts à coopérer quand même, évidemment.
Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler du chômage qui est à son niveau le plus bas. Alors, c'est quand même assez dingue parce qu'on a fait tout le quinquennat de François Hollande en attendant que les courbes se croisent. Et le taux de chômage est en recul de 0,1 point. On va en parler avec vous. 0,0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Le direct, c'est sur Sud Radio 0826-300-300. Donc le chômage au plus bas avec un recul de 0,1 point. 8,7% de la population active dans la France entière selon des chiffres provisoires de l'INSEE. Alors je pense que certains d'entre eux vont me dire les chiffres sont manipulés, on n'y croit pas. Mais force est de constater que ça fait depuis 2009 que ces chiffres n'ont pas été ceux-là, Dominique de Montvalon.
Donc c'est vrai que quand les chiffres sont mauvais.
On ne parlait que de ça pendant la présidence Hollande et là il y a un bon chiffre du chômage. Et
quand les chiffres sont mauvais, ils sont manipulés. Quand ils sont non pas formidables mais un tout petit peu plus prometteurs. On peut les prendre en compte quand même.
Deux réactions pardon de nos auditeurs qui nous dit Zabzab nous dit c'est sans doute qu'ils en ont radié beaucoup et Michael nous dit le chômage baisse mais pour certaines catégories de Français pour les 18-25 ans ça augmente et pour les plus de 50 ans aussi.
Voilà. Le chômage de masse il reste une réalité et une tragédie française à ce jour. Bon il y a du mieux voilà.
C'est pas une tragédie, on est responsable de notre propre sort là-dessus.
Nicolas Moreau.
Je voudrais pas casser l'ambiance en disant
Non, mais expliquez-nous, parce que c'est un mauvais chiffre du
chômage. Les États-Unis sont à 3 et quelques, l'Angleterre à 3 et quelques. Partout ça cartonne, il reste 4 pays en gros en Europe où ça marche pas, c'est Italie, France, Espagne.
Les statistiques américaines ne sont pas fondées et calculées.
Elles sont calculées bizarrement, mais le fait est que ça marche un petit peu partout et que nous on reste avec un chômage qui reste très élevé.
C'est la France, société bloquée.
Parce qu'on a fait des choix de chômage, tout simplement.
Oui. Ce qui est quand même intéressant, c'est de noter que ça a globalement tué le quinquennat de François Hollande, cette histoire de courbe du chômage, à juste titre peut-être. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, bon, il y a quand même une dynamique. Après, on peut contester, il n'empêche qu'il y a une dynamique. Elle a été amorcée sous François Hollande. Au passage, je n'ai aucune affinité particulière, mais quand même, noter qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises pendant son quinquennat, dont les effets, à mon avis, aujourd'hui, sont évidents, et ça a été prolongé par ce qu'a fait Emmanuel Macron avec ses ordonnances sur la loi sur les lois travail. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, bon, ça baisse sensiblement, visiblement, depuis deux ans, dans la dynamique de ce qui avait été fait avant, et ça ne lui profite en rien, quoi. Donc, quand on a une mauvaise nouvelle, ça c'est sûr qu'on se fait massacrer et on descend dans les sondages, et quand on a a priori des bonnes nouvelles, ça n'a aucun impact, en tout cas, aujourd'hui, on le ressent pas.
Je dis les Français, nos auditeurs, en tout cas, Sud Radio, n'y croient pas, juste avant les européennes. Voyons donc, il faut surtout voir ce qu'ils entendent par baisse du chômage, quelle catégorie compte, il y a de l'emploi précaire, il y a une manière, peut-être aussi. Enfin, voilà, donc on n'y croit pas.
Il y a une perte complète de confiance dans la parole publique. Donc, de toute façon, dès qu'il y a une bonne nouvelle, elle est systématiquement contestée parce qu'on va dire non, mais de toute façon, c'est pas vrai, c'est manipulé. Il faut dire que la classe politique, dans son ensemble, d'avant, a quand même, pardonnez-moi, bien déconné pour mériter aujourd'hui ce type de châtiment.
Hein. Voilà. Ouais.
C'est l'heure des additions.
On a Bernard en ligne avec nous. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour. Donc moi, je vous écoute là pour parler de la baisse, entre guillemets, du chômage. Je ne suis pas d'accord, je vais vous dire pourquoi. D'abord, est-ce qu'on pourra me dire, ou la personne qui soutient qu'il y a une amélioration, est-ce qu'il pourra nous donner le taux aujourd'hui? Donc c'est un taux extrêmement élevé, et je vais vous dire pourquoi ça ne peut pas marcher. Les seuls créateurs d'emplois, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, et depuis François Hollande, on a pris une option où les entreprises sont délaissées, sont chargées, taxées. Allô ?
Oui, on vous écoute.
Donc, les entreprises, c'est une option stratégique d'ordre économique global, si vous voulez. On n'aide pas les entreprises. Aujourd'hui, elles sont chargées. Elles n'exportent plus, ces entreprises-là, etc. Donc, même la consommation, si vous voulez, puisqu'on fait beaucoup de social, le social censé augmenter la consommation, etc. Alors, il y a de la consommation, mais elle profite à qui ? À de l'importation, c'est-à-dire à des entreprises de l'étranger. Donc, on ne vient de pas nous raconter. Deuxième point que je voulais dire, c'est que le taux de chômage en lui-même ne peut pas s'interpréter tout seul, bien qu'à ce niveau de 10%, il puisse déjà s'interpréter. C'est qu'il faut le relier également à d'autres, paramètres macroéconomiques comme la croissance économique qui est dans un état absolument catastrophique, sur les prélèvements directs obligatoires. Les prélèvements obligatoires directs et indirects qui dépassent les 50% de notre PIB et qui est un signe d'une socialisation rampante de notre économie qui ne créera pas de richesse. Donc aujourd'hui, on peut nous raconter tout ce qu'on veut, allant sur des chiffres, et là, on peut discuter. Alors, on nous ressort ça parce qu'il y a des élections macronistes. Moi, je respecte toutes les idées, ceux qui veulent voter Macron, etc. Mais donner au moins des arguments soit plausible, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci Bernard, mais le thermomètre est le même à chaque fois, c'est l'INSEE qui mesure, vous dites les chiffres sont manipulés, vous voulez réagir à ce que dit Bernard ?
Non, ça n'a pas rebougé effectivement depuis un petit bout de temps maintenant dans la méthode de calcul, et puis c'est une inflexion, il y a 19 000 demandeurs d'emploi en moins, et pas sur toutes les catégories, donc je ne pense pas qu'on puisse parler décemment de dynamique ou pas
D'autant
qu'ils n'en jouent vraiment pas. Le gouvernement annonce les chiffres tous les trois mois et il reste très prudent.
Ils n'en font pas.
Il y a pas d'exploitation.
Il y a un petit quelque chose. Voilà.
Mais ça se fait dans le monde entier, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas chez nous. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des embellies magnifiques dans les autres pays et qu'il y a une embellie très limitée en France? C'est la vraie question qui se pose finalement.
Odile nous dit les gens sont en formation et en CDD de 2 voire 3 mois. Ils sont sortis des chômeurs, donc tout ça, c'est de la foutaise. Dans quel secteur? Ça a toujours été, effectivement. Pendant des années, on nous disait que pour baisser, il fallait une croissance à 2%, nous dit Michael.
Joker,
bon.
Non, juste, je veux dire,
ça vous ressemble pas.
Toutes les questions des stats, des statistiques et tout, moi, c'est une des discussions dans lesquelles je ne veux pas aller parce que je n'ai pas les compétences. Et puis ensuite, effectivement, il y a tout un tas de chiffres qui sont pris, qui peuvent être manipulés. C'était Churchill qui disait torturer les chiffres, on leur fait dire ce qu'on... Les statistiques, oui.
Oui, les statistiques.
Bon,
ouais.
On peut les torturer. Donc, toujours... Non, simplement, le chômage de masse reste présent avec tout l'impact que ça a sur le moral d'une nation, avec tout ce que ça implique de vécu, de ressenti. Et puis, je fais une dernière observation sur la France, entre autres choses, paye aussi sa désindustrialisation massive qu'elle s'est laissée imposer. Et puis, voilà. Mmh. Donc, aujourd'hui, les mutations sont particulièrement compliquées. Et puis, sinon, dernière observation, c'est le chômage des jeunes. Hein. Ça, c'est une vraie tragédie. L'entrée dans la vie active qui se fait à 27, 28 ans maintenant, c'est quand même...
Elle s'est pas laissée imposer sa désindustrialisation. Pardon, je vais y arriver.
Aussi,
oui, c'est ça. C'est votre inspiration. Voilà, je crois que c'est pas ça. Elle ne s'est pas laissée imposer. Je pense qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour.
Oui.
Là, il y a une faute politique majeure depuis les années
80.
Ce qu'on dit assez peu aussi, c'est la précarisation générale des emplois. De plus en plus d'employeurs demandent à ce que ce soit de l'auto-entrepreneuriat, de moins en moins de contrats de CDD ou même de CDI. Les patrons ont peur d'embaucher, et en tout cas n'embauchent pas, et c'est vrai que même pour des postes de serveuse dans des restaurants, j'ai des jeunes qui m'ont raconté qu'on leur demande de monter leur auto-entreprise. Enfin, c'est dans le journalisme aussi.
C'est pour externaliser le coût du travail. C'est des esquives face à des problèmes qu'on a depuis très longtemps et qu'on n'a pas réglé. Au bout d'un moment, les entreprises se sont adaptées, l'État s'est pas adapté. On a un coût du travail qui est trop élevé, on a un droit du travail qui est très compliqué et qui l'est toujours autant malgré les ordonnances Macron. Enfin, ça a changé deux, trois problématiques, mais ça change rien. Au bout d'un moment, les entreprises, si elles veulent survivre, elles sont obligées de s'adapter en passant par des méthodes comme ça qui sont dégueulasses, autant le dire, mais elles sont bien obligées de le faire puisque l'État les aide pas de toute façon. L'État les pourfend donc.
On a Alexandre qui voulait réagir. Bonjour Alexandre, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je suis d'accord avec ce que disait Bernard, surtout que les chiffres aujourd'hui, ils sont, dès qu'on vous force à aller en formation, on vous envoie en formation. Dès que vous êtes au RSA, vous sortez des chiffres. Dès qu'il se passe quoi que ce soit, en fait, vous sortez des chiffres directement.
Même quand on est au RSA, on n'est pas chômeur.
Ah ben non, dès que vous touchez plus, dès que vous avez plus l'aide au retour à l'emploi, déjà, ils vous sortent de leur système. Dès que vous faites une formation, même les plus petites formations que ce soit, vous sortez directement des chiffres. Et là, on arrive en période saisonnière, donc automatiquement, ça repart en zone, c'est quoi, là, il y a de l'embauche. Justement,
oui, mais les chiffres sont sur les mois passés, pas sur les mois à venir. Il va y avoir de l'embauche, effectivement, vous avez raison de le dire, pour les saisonniers. Mais là, le bilan de l'INSEE, il concerne les mois qui viennent de s'écouler. Ah, on a perdu Alexandre. Donc, beaucoup de défiance, effectivement, de la part de nos auditeurs sur ces chiffres du chômage. Je voulais qu'on parle quand même de ces 80 km/h. Est-ce qu'il faut laisser le choix au département ? Le Premier ministre donc l'a affirmé ce matin. Il était interviewé chez nos confrères de France Info. Le président des conseils départementaux pourront assouplir la mesure sur la limitation de vitesse sur les routes à 80 km/h. Ça va être un sacré bazar, pour ne pas parler autrement.
N'importe quoi.
Ouais, c'est je crois qu'on peut résumer le sujet comme ça. C'est créer un bordel pas possible, alors qu'il suffirait de prendre une décision comme ça a été fait pour les 80. On dit, bon, on repasse à 90, on s'est gouré, pardon, et puis voilà.
Mais recul, il mange ton chapeau un petit peu là, Édouard Philippe. Enfin, c'est une sorte de compromis politiquement, Dominique de Montvallon.
Cette histoire de 80 km/h est une singularité dans la trajectoire globale d'Édouard Philippe, qui est, depuis qu'il est à Matignon, très bonne. Alors, cela dit, on peut être en désaccord complet avec sa politique, ça c'est un autre problème. Mais il a montré qu'il était à sa façon l'homme d'État. Mais rappelons-nous, c'est lui qui a pris cette décision de façon totalement personnelle. C'était vraiment une exception sous Macron. Hein. De façon totalement personnelle, unilatérale quelque part. Et de son point de vue, il l'estimait courageuse. Je pense qu'il a montré à ce moment-là sa dimension... techno, voilà.
L'erreur,
aujourd'hui rattraper les choses.
Alexandre Malafaï.
On va voir comment il le présente. J'ai pas écouté ce qu'il disait ce matin, mais si c'est mis sur la table en disant bon, écoutez, l'année dernière on a fait une mesure qui a pas été acceptée, mais l'intention était quand même bonne. Est-ce qu'on veut sauver des vies ?
Oui, dit que l'intention
donc, quand même,
est bonne.
Il faut pas oublier ça non plus comme objectif, hein, comme ambition. Oui. Et en revanche, la méthode est peut-être pas la bonne. Donc on va changer la règle. On va redonner le pouvoir de réguler la vitesse au département. Mais par contre, on se donne 2 ans. Et dans 2 ans, on fait le point. Si dans 2 ans, vous, dans les départements, vous n'avez pas adapté la vitesse de manière intelligente et si au bout du compte, le bilan routier n'est pas satisfaisant, à ce moment-là, il faudra sans doute une loi universelle parce que finalement, la baisse de la vitesse est la solution. L'idée, c'est de responsabiliser.
Et le bilan serait différent selon qu'il y a 80 km/h ou 90.
C'est intéressant d'observer. Hein. Si on veut responsabiliser les gens, on n'avait qu'à dire La limite est de 90, on vous conseille de rouler à 80.
Ouais, bah.
Non, j'y crois pas.
Le mauvais conducteur, c'est toujours l'autre.
Avec,
hein,
avec Valérie, on, était, oui. on a fait une émission où on avait parlé de ça et j'étais assez favorable, bien que en kikiné comme beaucoup
Régis
de gens,
de Castelnau, hein,
assez favorable à cette mesure 80.
Oui, moi j'étais favorable
aussi. En même temps, je ne suis pas technicien, peut-être que effectivement c'était une fausse bonne mesure. Elle a été prise aussi avec un peu de démagogie. C'est comme on veut, je crois, on veut ramener le périphérique à 50 km/h. Alors on y fait du 25 toute la journée, puis la nuit.
C'est pas de la démagogie, c'est du masochisme, 50 km/h.
Non, mais faut pas plaisanter. Il y a des vies humaines qui sont en jeu. On vous fixe un objectif collectif, on ne touche pas aux 90 km/h. Par contre, dans deux ans, il faut vraiment qu'il y ait moins de morts sur les routes.
Bah, pourquoi on ne le fait pas dans l'autre sens, comme proposait Edouard Philippe, c'est-à-dire on voit à 80 km/h s'il y a moins de morts sur les routes.
Il faut laisser un peu de liberté aux gens, mais vous pouvez rouler à 90 ou 80, ce n'est pas le sujet. Par contre, roulez mieux, et si dans deux ans on a baissé le nombre de morts, à ce moment-là, on ne baissera pas la vitesse d'une manière unilatérale sur toutes les routes.
Je n'y crois pas une seconde.
C'est ce qui est tombé d'en haut, ce qui était général, ce qui n'autorisait aucune inflexion transitoire, c'est ça qui a choqué.
Allez, on se retrouve demain. Pour d'autres infos à 10h, on aura Bilal Hassani avec nous entre 10h et 11h. Et puis on vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, c'est André Bercoff. À demain.